sur France Inter. Dans la tête au carré, la zététique, c'est le thème de notre dossier cet après-midi avec mes deux invités. Fabrice Néret, vous êtes directeur de recherche au CNRS et administrateur de l'Observatoire Zététique. Et Florent Martin, ingénieur en informatique et vice-président de l'Observatoire Zététique. Les courriels arrivent déjà nombreux sur le site de l'émission sur franceinter.com. Alors, il y a cette première question de Richard qui vous demande quelles sont les racines et significations du mot zététique. Effectivement, Fabrice Néret et Florent Martin, qu'est-ce qui se cache derrière ce drôle de nom de zététique?
Alors c'est un mot assez ancien en fait, qui est emprunté au grec et qui veut dire du grec zétain, qui veut dire chercher. Et c'est essentiellement deux choses, hein. C'est une position philosophique dite sceptique, c'est-à-dire sceptique au sens grec du terme, hein, c'est-à-dire qui considère, qui examine. Et alors pourquoi le mot zététique? C'est essentiellement parce que le mot qui est généralement utilisé dans le reste du monde pour définir cette approche, c'est le mot sceptique. Mais le mot sceptique, il est très fortement connoté en France, au sens où on entend souvent sceptique borné. Et là, comme c'est exactement l'inverse qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'être ouvert, d'examiner en fait les éléments plutôt que de les rejeter a priori, donc on a préféré s'attacher à ce mot-là. Et donc, comme je disais, c'est essentiellement une position philosophique sceptique ouverte, c'est-à-dire que en face d'un phénomène dont on ignore la nature, on préfère dire « je sais pas » que de se positionner en termes de croyance en disant « j'y crois ou j'y crois pas ». Et puis c'est bien de reconnaître qu'on y croit, qu'on ne sait pas, mais après, pour essayer de fabriquer de la connaissance là où elle fait défaut, on met en place des expériences scientifiques pour essayer de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les voir, quoi.
Voilà. Fabrice Néret, scepticisme et esprit critique pour présenter la zététique ?
Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre avec, parce qu'on nous dit finalement ce que vous faites c'est la science.
Oui, c'est vrai qu'on présente ça comme une science parfois d'ailleurs.
Et déjà il y a beaucoup de choses où on en reparlera peut-être, mais le vocabulaire est souvent très dangereux. Et effectivement quand on parle souvent de science dans les médias, est-ce qu'on parle en fait de la connaissance, où il faut avoir été à l'école assez longtemps pour l'avoir? Est-ce qu'on parle de la démarche, qui est très proche de la démarche critique que tout le monde peut avoir? Est-ce qu'on parle des métiers? Est-ce qu'on parle du système tel qu'il est en France, du ministère jusqu'au CNRS? Et le même mot peut dire un peu tout à la fois, et c'est connoté, c'est difficile. Donc là aussi, quand on parle d'association sceptique ou zététique, on parle de choses que tout le monde peut s'approprier, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 12 pour les avoir, même si d'ailleurs ce qu'on récupère, c'est la rigueur de la démarche scientifique, qui n'est pas autre chose que l'esprit critique que peut avoir un juge dans son enquête, un journaliste, on l'espère, ce genre de choses.
Donc c'est une façon de faire de la méthode, au fond, d'appliquer une méthode scientifique toute chose.
C'est plus
ce que vous rappelez, c'est quasiment la nature de la science elle-même, la façon dont doit se faire la science.
Qui est même plus largement que ça, parce que la philosophie aussi, et qui est comment on fait pour accéder à la vérité, qui n'est jamais la grande vérité, avec qui est toujours difficile à avoir, mais comment on fait pour trier le bon grain de l'ivraie. Et mais qu'est-ce qu'on donne comme outil? Parce qu'effectivement, tous, et qu'on soit lettré ou pas lettré, on a des désirs, on a des préférences, même les scientifiques. Des gens nous disent des choses, nous on n'en sait rien. Marine, elle a l'air vraiment calée hein, sur toutes ces médications et tout. Puis on parle à la télé, puis tel produit, ça a l'air bien. J'ai envie d'y croire, on me donne des arguments, on me montre des choses, c'est vrai qu'elles sont impressionnantes les choses, mais comment faire pour savoir, comment séparer là-dedans? Il y a un peu deux choses là-dedans, il y a des petites recettes. En fait, Henri Brock appelle ça plutôt un art, comme pour les ouvrages d'art, vous voyez, un ensemble de méthodes, une sorte d'ingénierie critique.
Alors, Henri Brock, il faut le présenter parce qu'il a un rôle très important en France en particulier. C'est lui qui a remis la zététique au goût du jour dans les années 90, et il faut dire qu'elle fait l'objet d'un enseignement à l'université. C'est une discipline qu'on peut apprendre quand on est étudiant, c'est bien ça?
Voilà, c'est essentiellement sous le titre en général autodéfense intellectuelle ou initiation à l'esprit critique. L'idée, il y a des enseignements qui sont tenus par le Cortex à Grenoble, par exemple, à l'université. Il y a différentes universités, en fait, sur des initiatives souvent assez personnelles, de professeurs qui enseignent ces sujets-là. Et c'est essentiellement, c'est pas une science à part entière, hein, c'est plutôt une posture philosophique qui utilise les outils de la science de manière assez transdisciplinaire, au sens où on utilise autant bien, il y a une partie où on utilise les statistiques et les probas pour essayer de savoir si oui ou non il y a un signal et qu'il n'est pas noyé dans le bruit. Aussi bien que de la méthodologie ou que de la sociologie pour essayer de comprendre, par exemple, quelles sont la nature des croyances, comment ça se fait que les gens arrivent à adhérer à des idées un peu loufoques parfois alors que les preuves ne sont pas là.
On va donner des exemples concrets dans quelques minutes. Là, on pose déjà cette discipline pour bien comprendre de quoi elle traite. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans un laboratoire de zététique, comme par exemple à l'Université de Nice, lorsqu'Henri Brock enseignait cette discipline, ou au sein de l'Observatoire à Grenoble? Qu'est-ce que vous faites exactement autour de cette notion de zététique?
Alors, à l'Observatoire Zététique, il y a plusieurs dimensions. Hein. Il y a une dimension de dossier, c'est-à-dire sur des sujets divers et variés, comme les médecines dites alternatives, les apparitions de fantômes, ou tous ces sujets-là. Donc, on fait du travail de dossier pour essayer de proposer, en fait, des explications alternatives à ce qu'on voit d'habitude en ligne. Il y a également un travail de diffusion de cette méthodologie. Il y a un forum sur lequel les gens ils peuvent discuter. Il y a notamment, on fait une newsletter qui paraît tous les 13 du mois à 13h13, ouais, avec l'essentiel des actualités du paranormal. On commente aussi l'actualité. Pour essayer de proposer donc des, donc l'idée c'est pas dogmatique au sens où on n'est pas là pour enfoncer des vérités dans la tête des gens, on est là pour leur proposer une alternative et surtout leur donner des arguments fiables, vérifiés, qui pourraient éventuellement remporter leur adhésion.
Et Fabrice Néré, dans un laboratoire de zététique, qu'est-ce qu'on bidouille exactement ?
Alors, en pratique, les choses qui sont peut-être les plus visibles et marquantes à l'extérieur, c'est les quelques fois où il y a eu effectivement des expériences qui ont été menées. Bon, en pratique, au jour le jour, c'est pas forcément ce qui occupe le plus de temps, c'est ce qui est le plus visible. En pratique, effectivement, il y a un certain nombre de conférences qu'on a à faire, de choses de ce genre. C'est vrai qu'on passe plus de temps, effectivement, à faire des dossiers, des conférences.
Alors, je me souviens, puisque Henri Broek était venu il y a 5 ans, à l'occasion d'un livre qui était paru chez Odile Jacob, Gourou, sorcier et savant, livre d'ailleurs qui avait été préfacé par Georges de Charpak. Il nous racontait que dans son laboratoire, par exemple, il apprenait à ses étudiants à fabriquer le sphère de Turin pour leur montrer que, justement, toute cette histoire, c'était
du pipeau. Une des activités, par exemple, c'est reproduire des phénomènes qui sont réputés paranormaux ou étranges. Sous le principe du rasoir d'Occam, en fait, l'idée, c'est que quand on arrive à reproduire avec une manière naturelle un phénomène qui est dit extraordinaire, on peut faire l'économie d'une explication surnaturelle pour expliquer le phénomène. Donc, à contrainte égale, quand on a une explication rationnelle qui vient illustrer le phénomène, bah autant retenir celle-là que l'hypothèse qui vient de l'espace, quoi.
Alors attention, parce qu'effectivement, je sais que dans les médias aiment bien en fait confondre débat et combat, dire vous autres vous êtes les pourfendeurs, etc. Dire c'est pipeau, c'est un peu délicat parce que ça laisse entendre qu'effectivement il y a une volonté de tromper de la part des gens qui soutiennent, alors qu'ils sont de bonne foi. Et tous les gens qu'on rencontre sont vraiment quasi tout le temps des gens de bonne foi.
Donc ça, vous le respectez.
Par ailleurs, ça n'empêche pas que, par exemple, un praticien qui ferait commerce de quelque chose de bonne foi peut être néanmoins dangereux, parfois. Donc quand on dit pipeau, c'est vraiment cette notion d'économie. C'est-à-dire qu'au moins, si on nous dit on ne sait pas le faire, c'est impossible, c'est trop parfait, cet argument, on peut montrer qu'effectivement il n'est pas valide puisqu'on peut le faire. Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas ce qu'elle prétend être, mais en ce cas-là, les gens doivent amener des arguments autres et plus solides. Il y a l'autre exemple, vous avez sans doute entendu parler des crop circles, ces formes géométriques très bizarres qu'on trouve en plein champ.
Dans les champs, oui.
Et dont certains disent que c'est surnaturel, d'autres que ça vient de la Terre et des champs magnétiques, d'autres que ce sont des ovnis. Et puis on sort souvent l'argument, c'est exactement parfait, c'est impossible à faire par des humains. Et il y a des tas de groupes, il suffit de chercher crop circle plus making of, c'est toujours important dans les recettes Google de chercher un deuxième mot plus critique. Ouais. Making of, et vous avez des films de gens qui montrent comment on les fait. Donc ça ne dit pas qu'ils ne sont pas surnaturels, ça prouve que l'argument qu'ils sont parfaits et pas faisables par des humains ne tient pas. Donc les personnes peuvent tenir leur théorie, ils peuvent dire j'y crois, j'ai pas de preuves, c'est parfaitement respectable. Par contre, si je prétends avoir des preuves, bah, trouvez-nous autre chose que celle-là, s'il vous plaît.
Alors, on va prendre un exemple qui a défrayé la chronique, celui dans le cadre des objets qui soignent, des bracelets Power Balance. Alors, je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage avec l'un des vendeurs de ce produit, puis on en parle ensuite ensemble.
Ce Power Balance, quels sont ses principaux effets ?
Alors, l'effet immédiat, en tout cas, c'est que ça rétablit à la seconde près le flux électromagnétique au sein du schéma corporel. Donc ça amène beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de concentration, de souplesse, et ça peut aider à la récupération. Le gros buzz, ça a été durant la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de footballeurs qui le portaient. Ensuite, il y a eu les championnats d'Europe d'athlétisme, où là, tous les athlètes qui ont pulvérisé des records le portaient. Après, il y a eu l'effet boule de neige et le bouche à oreille, évidemment.
Alors voilà, des histoires autour de ce bracelet magique, certains m'ont titré l'arnaque du siècle, hein, qui aurait déjà touché à sa fin, puisque la marque a été contrainte de reconnaître sa publicité mensongère au sujet des promesses de ces bracelets en Australie. Mmh. Ça n'est pas le cas en France, hein.
Pas que je sache.
Pas que je sache, ouais. Non.
Alors comment la zététique peut intervenir sur ce type de produit ? Par exemple, voilà, un objet qu'on voit souvent passer, effectivement, dont les sportifs vantent les mérites. Comment vous pouvez intervenir là-dessus
en tant que... C'est un peu l'exemple du gris-gris ou de la patte de lapin. Quand on a envie de quand on est en face de ce genre de phénomène, en fait, l'idée c'est de dire attention, de montrer non, c'est pas vrai que vous n'êtes pas plus équilibré ou que vous n'êtes pas plus costaud. L'idée c'est juste de montrer que la question c'est de savoir est-ce que vous le fait que vous vous sentiez plus fort, ça ne veut pas dire que vous êtes plus fort. D'accord. Donc, si on veut réellement observer s'il y a une réelle efficacité, il suffit de demander à l'entraîneur est-ce que depuis que votre sportif
porte
son bracelet, il court plus vite, est-ce qu'il court vraiment plus vite ? La réponse, elle est dans le chronomètre, hein, et la réponse, c'est non.
Mm-hmm. Ça pourrait être le cas. La patte de lapin pourrait encourager suffisamment la personne pour qu'elle se sente en forme.
Oui, on sait qu'il y a des coachs, qui viennent booster le mental des athlètes. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que.
Il pourrait y avoir un effet placebo d'ailleurs à ce bracelet.
Voilà, ce qu'on nous vend en fait dans le l'argumentaire commercial du bracelet, il est assez intéressant parce que c'est une expérience, c'est assez caractéristique d'une expérience scientifique exactement malmenée en fait. Donc on a l'impression, on confond expérience personnelle et expérience scientifique. On a l'impression de constater l'efficacité pragmatique du bracelet sur soi instantanément. Hein. Mm-hmm. Et puis en fait, on se rend compte que quand l'expérience elle est menée, les gens qui appuient sur le bras, si on regarde de près, ils appuient pas vraiment tout le temps de la même manière. Et puis si on voulait vraiment disqualifier par exemple le fait que la personne n'appuie pas de la même manière, il suffirait, ouais, quand la personne tend le bras, de mettre par exemple au bout du bras un sac, comme ça, un sac dans lequel on met une charge, comme ça on est sûr que la force est tout le temps la même et qu'elle est tout le temps dans la même direction, et surtout de faire l'expérience en aveugle, c'est-à-dire qu'on met sur le bracelet de la personne une fois le vrai bracelet, et une fois un bracelet sur lequel il n'y a pas la pastille qui est censée faire cet effet magique, et ce qu'on observe c'est quand on fait ce genre d'expérience en aveugle, l'effet il est juste plus là, quoi.
Et là, c'est la méthode scientifique, justement, que vous décrivez.
Ça vaut le coup d'aller un tout petit peu plus doucement, parce qu'effectivement, il y a deux choses qui sont intéressantes avec ça. C'est, il se trouve qu'avec Power Balance, on a vu beaucoup diffuser à la télé et sur Internet une démarche imitant la science, censée montrer expérimentalement comment ça marche. Donc là, ce que Florent a décrit un peu vite, c'est ça. On vous dit, mettez-vous sur un pied, voyez avec le bracelet, et puis voyez sans le bracelet, vous voyez bien, ça marche. Et effectivement, quand on parle de double aveugle, ça veut dire, déjà le simple aveugle, c'est que la personne ne voit pas si elle est en train de porter le bracelet ou pas. Et le double aveugle, exactement comme pour les médicaments, c'est que la personne qui fait la manip elle-même ne sait pas, parce qu'évidemment, le test qui consiste à bousculer la personne et voir si elle tombe ou elle tombe pas, quand à la fois la personne qui porte le bracelet et la personne qui veut lui vendre le savent toutes les deux, on voit bien qu'il y a un léger biais.
Surtout que la personne qui appuie, c'est celle qui vend le bracelet, donc elle a tout intérêt à déséquilibrer la personne.
Il y a autre chose à dire sur ce test-là. Ce test, en fait, il se trouve qu'il vient de quelque part, il vient d'une méthode qui est relativement parmi les méthodes à risque, qui s'appelle la kinésiologie, et on a vu exactement ce même test qui s'appelle le test d'effort musculaire, qui a été utilisé en fait pour énormément de choses différentes, comme les petits patchs censés vous protéger des ondes du téléphone portable, ce genre de choses. Donc ça, c'est des tests en fait qui viennent de pratiques parfois un peu dangereuses issues du New Age, partant du principe que le corps ne ment pas, le corps sait répondre à toutes vos questions, qu'elles soient de santé ou pas de santé, et on vous interroge au travers de ce test, et cette même méthode est utilisée éventuellement pour vous donner des conseils médicaux ou psychologiques. Il se trouve que maintenant, elle se trouve que dans pas mal de techniques d'objets magiques, on vous ressort la même, cette même preuve. Donc évidemment, il faut savoir que quand il n'y a pas de double aveugle, quand on voit ce qui se passe et tout, l'esprit critique doit nous dire que c'est un peu léger.
Beaucoup de messages arrivent pour vous sur le site de la Tête au Carré. Je vous les transmets dans un instant.
Alors, la tête. On commence à connaître un petit peu les mécanismes.
Qu'entendez-vous par là? Je ne comprends pas.
C'est...
La tête.
J'ai déjà oublié la question.
Alors,
la tête.
C'est la science...
Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le génie humain.
Ah oui, oui. Là, on s'incline.
La tête.
Fabrice Néret, Florent Martin de l'Observatoire Zététique pour parler donc de cette discipline cet après-midi avec vos messages sur franceinter.com. Geneviève, à Aix-en-Provence, nous dit ceci. La zététique semble être une science, donc on va dire plutôt une discipline, hein, vous l'avez précisé tout à l'heure, qui met en exergue l'esprit critique. De fait, ne pourrait-elle pas s'appliquer aux disciplines scientifiques normales qui, elles aussi, ont besoin d'un esprit zététique? Alors, qui veut répondre? Fabrice Néret, là-dessus?
Oui, et j'ajoute que c'est vraiment une des choses qui m'ont fait venir à la zététique et qui m'ont aussi apporté. Qui est qu'effectivement, il y a des tas de fois où on peut tomber, comme dirait Bourdieu, dans le débat immobile, croyance contre croyance. Moi, je sais, c'est pas compatible avec mes livres, donc ce que vous dites est forcément faux, et puis dans l'autre sens aussi, quoi. Et de savoir, il y a beaucoup de choses où, même vous, dans votre métier, vous n'avez pas forcément tout revérifié vous-même. Il y a des recettes, il y a des livres, et puis on fait un peu confiance parce qu'il faut bien, on peut pas tout reconstruire, quoi. Et il y a des fois, c'est quand même intéressant de se redire, oui, même dans ce que je crois être solide, après tout, sur quoi ça repose, c'est pas forcément pour le remettre en doute, pour le dire je vais changer d'avis, mais pour être sûr qu'à un moment, ce sur quoi on s'appuie, qui est important pour nous, ce sur quoi on s'adosse, est-ce que c'est sur du sable, ou est-ce que c'est sur des choses un peu tangibles, et donc se resolidifier un peu ça. L'autre chose importante aussi, c'est que, évidemment, les sciences, c'est des choses qu'il faut reconsidérer régulièrement.
Et donc la méthode est à appliquer aussi pour la science elle-même, oui. Hein, pour reprendre le message de Geneviève, c'est bien ça.
Le point important aussi qu'il faut voir, c'est qu'à aucun moment, et des scientifiques ou parfois des gens même contre l'homéopathie, etc., utilisent des arguments qui ne sont pas scientifiquement licites, qui est de prendre une théorie pour dire « ça n'est pas compatible avec telle théorie, donc tel fait ne peut pas exister ». Cet argument n'est pas licite. Parce qu'effectivement, il y a eu dans l'histoire des sciences des tas de moments où il y avait un fait nouveau, les météorites, les pierres qui tombaient du ciel, c'était pas compatible avec les théories au début, les débuts de la mécanique quantique, etc. Donc, il faut pas, évidemment, ça nous donne une idée de vraisemblance, peut-être qu'on parlera du curseur de vraisemblance tout à l'heure, qui fait ouvrir un œil circonspect et s'interroger à la question, mais il faut toujours rester ouvert, le fait qu'on a pu passer à côté de quelque chose. Et puis, de toute façon, voilà, le fait que si la personne est amenée à penser ça, elle est pas idiote, elle est dans quelque chose, moi aussi je suis dans quelque chose, et évidemment, il faut travailler ça. Et ce qu'on fait en double aveugle, c'est intéressant parce qu'on a des collègues qui sont en physique et ils prennent pas toujours effectivement la même précaution au quotidien que ce que nous on peut prendre comme précaution pour tester un magnétiseur ou un radiesthésiste.
Mmh. Alors, pour prolonger la question de cette auditrice Geneviève, Frédéric nous écrit ceci: est-ce que la zététique est bien considérée ou est-ce qu'elle est mise à l'écart comme la cryptozoologie par exemple? Alors, est-ce qu'elle est bien considérée de la part des scientifiques eux-mêmes, Florent Martin?
Il me semble, oui, je ne sais pas à quoi on mesure la considération, mais...
Oui, il n'y a pas pour l'instant d'études vraiment menées sur la question, mais bon...
Une des spécificités peut-être de la discipline, c'est le fait que, assez largement, on est un peu le pont entre le milieu scientifique et le milieu paranormaliste ou croyant, ou les gens qui adhèrent à des idées un peu bizarres des fois. Bon, enfin, en tout cas, en marche du consensus scientifique. Donc, on est bien vu de la communauté scientifique assez largement parce qu'on fait preuve de rigueur sur les faits. Et puis, on entretient des relations assez cordiales avec le milieu paranormaliste, au sens où on fait preuve de respect, d'abord, des croyances. Hein, et puis, face aux faits, en fait, on n'est pas là pour polémiquer sur le bien fondé d'une théorie ou pas. On est juste là pour essayer de savoir si, oui ou non, dans les conditions expérimentales qu'on a mis en place, les phénomènes s'expriment ou pas. Donc, et une des raisons, je pense, enfin, une des manières qu'on a d'illustrer cet engagement, c'est que quand quelqu'un vient nous voir pour nous proposer de faire une expérience et qu'on voit qu'il n'est pas capable émotionnellement d'encaisser l'échec d'une expérience, l'échec éventuel d'une expérience, hein, on préfère, parce qu'il n'a pas de plan B par exemple, ou parce que c'est son métier de faire ça, et que, on préfère ne pas faire l'expérience. Que de lui ruiner sa vie et de le retrouver pendu au bout d'une corde parce qu'il a planté le truc. Quoi. Donc,
Alors, le domaine de la santé et de la médecine, c'est évidemment la porte ouverte à de nombreuses croyances. On va parler de ce qu'on appelle la radiesthésie. Donc là, c'est un ensemble de méthodes qui utilisent différents ustensiles comme des baguettes ou des pendules. Et on va écouter ce sourcier. C'est un habitant de la commune de Riboux dans le Var, là où était découvert une source. Et on va écouter ce monsieur qui n'est pas sourcier. C'est un habitant de la commune et qui raconte le travail du sourcier. Alors, c'était en 1971 dans Interactualité.
C'est le principal pour les bêtes, pour nous et tout. Vous voyez, là on fait couler de l'eau. Qu'avant, il fallait dire à la femme qu'elle faisait la vaisselle, va doucement à l'eau.
Comment a-t-on fait pour trouver de l'eau sur la plus petite commune de France?
Et il fallait faire comme a fait monsieur le maire, faire venir un sourcier qui l'a dit, voilà, on va forer là. Il a foré à 40 mètres, il a trouvé l'eau.
Qu'a fait le sourcier? Est-ce que vous l'avez vu travailler?
Oui. Et il marche, il a des baguettes à la main. Et oui, à l'eau, la baguette, elle tourne. Il vous dit, là, il y a de l'eau, là, il y en a un peu plus, là, il n'y en a pas. Et voilà, il trouve les points d'eau, et puis il ne s'est pas encore trompé. Il en a trouvé quelques-uns ici, partout où on a foré à trois endroits déjà. Mais trois endroits, il y a eu de l'eau. Et moi, je ne comprends pas. C'était un appareil qui détecte, mais là, il n'a rien. Il n'a qu'une baguette, je ne sais pas de quoi, d'olivier, là, mais ma foi, ça tourne. Essayez-vous un peu pour voir si vous la faites tourner, la baguette. Moi, je n'ai jamais pu. Hein. C'est un don.
Voilà, alors ça c'était en 1971, mais on pourrait aujourd'hui encore, j'imagine, retrouver des sourciers qui pratiquent exactement les mêmes méthodes. Alors là-dessus également, Fabrice Néré et Florent Martin, quelle est l'approche de la zététique autour des pratiques des sourciers? Comment vous procédez? Est-ce que vous allez sur le terrain, par exemple, pour aller rencontrer ces personnes et pour parler avec elles?
Oui, souvent, en fait, c'est même eux qui nous contactent. Hein, et ça illustre
Pourquoi
d'ailleurs...
Quel est leur questionnement alors, s'ils
nous contactent? Souvent, ils viennent parce qu'ils sont... Et ça illustre toute la curiosité et la bonne foi qu'elle a leur. Hein, c'est qu'ils viennent, ils viennent nous voir... vraiment l'esprit ouvert, nous disant, écoutez, moi je vois que je trouve de l'eau avec un pendule ou une baguette depuis des années, par contre je ne m'explique pas le phénomène, et vous qui êtes scientifique, j'aimerais que vous m'aidiez à mettre en place une expérience qui permette de mesurer ce signal, ou alors de m'expliquer qu'est-ce que je ressens.
Ça c'est intéressant comme démarche. Hein.
Ah, c'est super intéressant, et c'est pour ça qu'on prend la peine de faire des expériences avec eux, hein. Il y a vraiment une dimension pédagogique à ça, c'est pour savoir comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'il y a réellement un signal ou pas.
Alors, expliquez-nous comment
vous procédez. Plutôt que d'essayer d'expliquer quelle est la nature de ce phénomène, ce qu'on essaye juste de faire, et ça il me semble que c'est une première expérience expérience qui est importante, c'est avant d'expliquer le phénomène, c'est de vérifier la réalité de son existence. Quoi. Et vérifier la réalité de son existence, la question c'est de savoir, par exemple, on l'entendait dans le témoignage, là, le monsieur il disait, il se promène avec ses baguettes, et puis il dit creusez là, et puis 100% de réussite. Chaque fois qu'il a dit creusez là, hop, on a trouvé. Bah oui, mais s'il y a de l'eau partout en fait, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un phénomène? Est-ce que vous avez aussi creusé à côté pour vous assurer qu'il n'y avait pas d'eau là-bas? Voilà. Donc l'idée c'est de savoir... on peut faire l'expérience, par exemple, autrement que de le faire sur terrain. Si la personne est capable, par exemple, de trouver de l'eau dans un pendule avec un verre, de l'eau dans un verre, ce qu'on peut faire, c'est on va aligner une dizaine de verres, on va mettre de l'eau dans un d'entre eux, on va lui demander de vérifier que le pendule ne tourne pas quand il est en dessous d'un verre vide, de vérifier que le pendule tourne quand il est en dessous d'un verre plein. On va mettre un chiffon par-dessus et on va s'assurer que quand on ne sait pas où est le verre, parce qu'évidemment, quand on sait où est l'eau, le pendule, il tourne tout le temps. Hein. Par contre, quand on ne sait pas où est l'eau, la question, c'est est-ce qu'on trouve encore où il est? Est-ce qu'on arrive à savoir quand on ne sait pas? Et quand on sait qu'à un endroit, il n'y a pas d'eau, et quand on sait qu'à un endroit, il y a... Voilà.
Je vous suis.
On va faire l'expérience plusieurs fois de suite, comme ça. Donc, on va déterminer, là, c'est là où il y a une partie un peu mathématique et que c'est transdisciplinaire, parce qu'il faudra faire un peu des stats pour essayer de savoir combien de fois il faut faire l'expérience, et à partir de combien de succès ou d'échecs on va discriminer pour savoir si c'est un succès ou un échec. Et à partir de cette expérience-là, on va essayer de savoir si, oui ou non, avec un pendule, on peut trouver de l'eau quand on est dans des conditions en double aveugle, randomisées, enfin, bref, des conditions qui sont scientifiquement acceptables. Parce que sinon, en fait, on ne sait pas ce qu'on mesure quand on est sur le terrain. Mmh.
Donc ça, vous le faites avec le sourcier.
Voilà. Alors, typiquement, ce qui se passe, c'est que si vous êtes sourcier à Grenoble, c'est bonheur, hein, parce que vous pouvez creuser à peu près n'importe où, vous mettez trois coups de pelle, vous tombez de l'eau. La question en France, c'est pas tant de savoir s'il y a de l'eau ou pas, la question c'est de savoir à quelle profondeur.
Mmh. Bien sûr. Donc après, c'est pourquoi on fait tout ça, chacune des étapes là-dedans, chaque fois on nous dit, mais c'est pas la pratique de la personne, pourquoi vous n'allez pas tester le magnétiseur en train de guérir, le sourcier dans son terrain, etc. Il faut voir qu'une expérience scientifique, la première chose qui est importante, c'est de pouvoir tester toutes choses égales par ailleurs. Donc comment on fait dans cette chose où il y a 10 000 indices différents? Peut-être que le sourcier a vraiment des indices et trouve vraiment de l'eau, mais pas à cause de sa baguette. Peut-être qu'effectivement, il a une connaissance, une expérience, peut-être même pas consciente du terrain. Il faut savoir qu'est-ce qu'on teste. Est-ce qu'on teste le fait que le sourcier trouve de l'eau, ou est-ce qu'on teste un signal inconnu qui vient de la baguette? Il faut savoir ce qu'on veut tester. Parce que c'est pas la même méthode dans l'une et l'autre. Là, l'idée, c'est de tester la radiesthésie. Si c'est ça... Pour être toutes choses égales par ailleurs, il faut des conditions de labo. L'autre chose, quand on fait tester sur le verre d'eau, on pourrait toujours nous dire « oui, mais c'est normal, ça ne marche pas sur un verre d'eau, des gens nous objectent ça parfois ». C'est important, c'est de faire le test en blanc, c'est-à-dire que quand la personne sait ce qui a détecté, de bien être sûr, parce que ce n'est pas sa pratique habituelle, de voir que ça marche toujours.
Ouais, c'est pour vérifier que les conditions expérimentales qu'on a mises en place ne nuisent pas à l'expression du phénomène. Donc on fait valider par le radiesthésiste avant que l'expérience, les conditions expérimentales qu'on a mises en œuvre arrivent à lui satisfaire. Et c'est inutile de faire l'expérience avant que la personne nous dise « oui, oui, c'est bon, quand je sais que j'atteste que, par exemple, la quantité d'eau me suffit, et si la quantité d'eau ne lui suffit pas, on le fera avec des seaux, et si ça ne lui suffit pas, ou alors qu'il faut le faire à un autre endroit, on le fera. » Et de fait, hein, les magnétiseurs ou les radiesthésistes, la plupart du temps, il y a une dimension de bon sens qui est super importante, c'est qu'ils trouvent plus souvent de l'eau au fond d'un vallon qu'au sommet d'une colline, hein, par exemple.
Après, sur les tests, autre chose qui est important, c'est qu'effectivement, les statistiques, on les fait avant. Et on décide de tout avant, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites et qui ressemblent à nouveau des expériences scientifiques avec des grosses ratées. Donc évidemment, la première chose par rapport aussi à la voyance, ce genre de choses, c'est de savoir déterminer exactement par avance, se mettre d'accord, qu'est-ce qui est un succès ou une réussite. Parce qu'avec Maud Christen, et puis on fait un dessin, et puis on dit après, oui, je vois du pointu. Ah oui, là, dans le dessin, il y a du pointu. Non. On met des cartes qui sont un rond ou un carré, où on dit, trouver de l'eau, ça veut dire quoi, à un mètre près, etc. On choisit à l'avance. Si vous odez, vous réussissez 6 coups sur 10. Vous avez un don ou pas? Ou c'est le hasard? Donc là, on dit, la personne pense que oui, je réussis 9 fois sur 10. Les statistiques nous disent, c'est très facile à calculer. On a un petit logiciel qui permet de le faire. On vous dit, en fait, il va falloir que vous réussissiez sur 30 expériences 24 fois. Et on le dit à l'avance. Et surtout, on le dit à l'avance et on dépouille que à la fin. Parce qu'on est toujours tenté de dire, oui, mais au début, là, j'étais pas très chaud. Par contre, si on regarde les 6 dernières, là, j'étais en forme. Si on fait ça, on commence à faire du tri dans les données, quoi. Ou allez, j'en rajoute parce que je suis chaud. Et ça, on refait des martingales. Avec des martingales, vous êtes sûr de gagner. Et donc, c'est extrêmement facile de faire ce qu'on appelle des biais. C'est-à-dire d'avoir l'impression qu'on a fait complètement au hasard. En fait, tout ce qu'on fait ici, c'est des matchs contre le hasard. C'est-à-dire de dire, si on avait tiré au dé la réponse, est-ce que ça aurait fait ça ou pas? Et donc, il faut faire ça proprement.
Votre sourcier, est-ce qu'il a abandonné ses baguettes une fois que l'expérience a été menée et que vous lui avez montré que, finalement, c'était pas un don tout à fait particulier, qu'il y avait des raisons de trouver de l'eau?
Alors, non, parce que bien souvent, quand ils le font, ils le font pour des raisons qui sont absolument pas rationnelles. En général, ils le font gratuitement et on dit que c'est désintéressé, que c'est gratuit. Alors, il y en a beaucoup qui le font gratuitement, il y en a d'autres qui font un peu payer. Ce qui retire de ça, souvent, c'est bien plus souvent un prestige social et une sorte de reconnaissance dans
le village qu'un
gain financier. Hein. Mm-hmm. Donc, non, ils n'arrêtent pas face à l'évidence. En général, ce qu'ils font, enfin, face à une expérience qui a planté, bien souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils compliquent un peu la théorie en expliquant la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à trouver. Quoi.
Psychologiquement, on a eu un peu deux cas. C'est qu'effectivement, donc il faut savoir ce qu'on appelle la théorie de l'engagement. C'est trop dur à un humain de reconnaître qu'il s'est trompé toute sa vie sur un point et il va essayer de trouver une autre façon de résoudre sa dissonance. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont devenues un peu plus raisonnables en fait dans leur dans ce qu'ils prétendaient faire. Et puis, ça nous donne l'occasion. La position a évolué. C'est intéressant, quoi. Et on a eu le cas, c'était avec les Belges, c'est ça, où en fait, ils étaient enchantés. En fait, jamais de leur vie, ils avaient fait une vraie expérience propre. Et évidemment, on a tellement construit ça avec eux. Et à la fin, c'était un échec, en ce sens qu'on n'a pas prouvé ce qu'ils voulaient, on a prouvé qu'il n'y avait pas de résultat. Et ils étaient emballés d'avoir découvert comment on fait, en fait, pour faire les choses proprement. Ils étaient intéressés pour qu'on en refasse.
Et c'est
pour
la eux, dimension c'était... pédagogique de l'expérience, et que les gens, au moins, s'ils n'ont pas parti avec un résultat, ils sont repartis avec une méthode.
Vous êtes bien dans la tête au carré, on parle de zététique cet après-midi. Fabrice Néré, Florent Martin font partie de l'Observatoire Zététique dans le siège d'enquête à Grenoble, avec les mails des auditeurs. Muriel nous écrit de Bidart, dans le Pays Basque, ce message. Et elle se demande, elle a bien raison, si on peut tout expliquer par la zététique. Qu'est-ce qui fait la limite de l'inexplicable? C'est vrai, ça. Est-ce qu'il y a des phénomènes pour lesquels, pour l'instant, vous n'avez pas d'explication rationnelle?
Il y en a plein. Butez. Il y en a plein des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication.
Lesquels, par exemple?
Il y a, ça c'est la deuxième en général. C'est inévitable ça. On a quelques maximes en zététique. Hein, et il y en a une qui est inexpliquée, ne veut pas dire inexplicable. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas l'explication à un phénomène qu'il n'y a pas d'explication, ou alors que l'explication vient de l'espace ou du surnaturel.
C'est comme la science, c'est jusqu'à ce qu'on ait l'explication. Voilà, justement.
Donc l'idée, c'est, mais enfin, des questions pour lesquelles on n'a pas de solution. Enfin, ça fait le CNRS existe pour ça. Hein, c'est pour fabriquer de la connaissance sur des sujets pour lesquels on n'en a pas. Il y en a plein. Mais vu du grand public, il y a une chose dont faut avoir conscience, c'est que il y a plein de questions pour lesquelles les gens, il n'y a pas de réponse, alors qu'en fait, il y a des réponses, c'est juste qu'ils ne les connaissent pas. Mmh. Et que souvent, en fait, quand on cherche sur le net, par exemple, les explications d'apparition de lumière dans le ciel, on tombe systématiquement sur des sites d'ufologie qui nous expliquent que ça vient du fin fond de l'espace. On néglige souvent de chercher sur des sites sceptiques pour essayer de savoir s'il n'y a pas, à ce cas précis, une explication comme une lampe thaïlandaise, ou alors une explication naturelle, en fait. Et en fait, quand on cherche...
Lampe thaïlandaise, c'est quoi exactement?
Oui, vous savez, on fait ça pour les cerfs ou ce genre de choses, où il y a une lampe en papier dans laquelle... C'est une sorte de petite montgolfière, en fait.
On peut resituer, en fait, l'événement qui avait eu lieu l'été dernier, avec la découverte, c'était dans l'île à Lille-Dieu, c'est ça, qu'il y avait... Et il y avait eu, pendant une semaine, il y avait eu ces lampes bizarres qu'on avait vues dans le ciel. Et on avait...
ce qu'on appelait des lumières.
On voyait des lumières qui... Et parmi les témoignages, c'est intéressant, il y avait eu un expert. Un pilote de ligne, je sais plus s'il était d'actif ou à la retraite, qui dit non mais quand même j'ai l'habitude de voir des choses dans le ciel, et on voyait bien des accélérations fulgurantes et une grande distance et des choses comme ça. Et effectivement, au bout de quelques jours, on a fini par voir que les lanternes thaïlandaises, vous voyez, c'est une espèce de petit lampion avec une sorte de boule en papier par-dessus qui, chauffée par l'air, monte. Et ce qu'il y a, c'est que dans le noir, vous avez aucune idée des distances. Une lampe qui vacille, c'est vite fait de prendre ça pour une accélération, un éloignement. Et même, donc, avec un seul point, on peut pas, il faut une triangulation, deux personnes qui disent, moi j'ai vu au-dessus de tel arbre, moi j'ai vu au-dessus de tel, et on peut trouver la position, et donc la taille, la vitesse. Et de toute façon, l'expert qui vous dit, moi j'ai l'habitude, je suis pilote de ligne, des pilotes de ligne qui ont tiré sur Vénus, des pilotes militaires qui ont tiré sur Vénus, c'est régulier aussi, quoi.
Donc il n'y avait pas d'OVNI, c'était bien des petites lampes.
Oui, mais en fait,
dans le
du
ciel.
Coup, là, il suffit de mettre face à face deux choses. Hein, le témoignage du pilote qui dit ça vient de l'espace, et puis le témoignage du gars qui a lâché la lampe, hein, qui dit oui, je l'ai lâché à telle heure, le vent était dans telle direction, elle est partie à cet endroit-là. Au bout d'un moment, la lumière s'est éteinte, le lampion est, et puis...
La chose importante à dire, c'est qu'il y a ici ce qu'on appelle un effet canard de bain, très souvent, qui est, oui, d'accord, celui-là, il était faux, mais celui-là, le nouveau, là, il est vrai. Là. Ah, bon, d'accord, il est faux, mais celui-là, il est vrai. Ce qui est intéressant, c'est justement de se repencher sur qu'est-ce qui avait été dit avant qu'on sache. Quelle est la liste des arguments? Comme ça, on sait maintenant quoi penser de cela. Et puis la prochaine fois, avoir un peu mûri.
Canard de bain, c'est la résurgence permanente du phénomène. C'est-à-dire à chaque fois qu'on pense l'avoir enterré comme son canard de bain en le faisant plonger sous l'eau, pop,
il remonte à la surface. Côté. Autre exemple, les dames blanches. Écoutons cet extrait d'Interactualité. C'était en décembre 1980 au sujet d'une dame blanche aperçue régulièrement par les habitants de Plougastel en Bretagne.
Mystérieuse affaire à Plougastel en Bretagne. le retour de la Dame Blanche. C'est ainsi que les habitants de cette ville du Finistère ont intitulé l'histoire du fantôme d'une femme morte à l'issue d'un accident de voiture et qui réapparaît, tout de blanc vêtu, sur les routes les soirs de pleine lune. Ce phénomène hante tellement les esprits que les gendarmes ont décidé d'ouvrir une enquête. Un habitant de Plougastel a raconté à Jacques Esnoux cette curieuse histoire de revenante.
C'est une dame qui se fait prendre en autostop par des gens, se fait déposer à l'endroit du pont de Plougastel, paraît-il, et à la fois par abonné, elle prend un manteau d'automobiliste et puis après on retrouve ce manteau sur la tombe une fois que l'automobiliste l'a déposé et en même temps elle dit que à l'endroit où elle s'est arrêtée, que c'est là qu'elle est morte ça a quelques années, je sais pas exactement quand. Il y en a qui prennent ça au sérieux, d'autres qui rigolent. Moi personnellement, j'y crois pas trop.
Alors, Florent Martin, vous avez enquêté sur ces fameuses dames blanches pour la zététique, sauf que là, c'était dans le Lot en 2008. Le mystère dans cette région a-t-il été élucidé ?
Oui, on est parti façon Samy et Scooby-Doo. En fait, on a été appelé parce qu'il y avait une dame blanche qui apparaissait dans un village. Et puis, autant des dames blanches, d'habitude, c'est une apparition qui est unique et puis ben, on ne peut pas faire grand-chose a posteriori. Autant là, elle apparaissait de manière assez récurrente. Donc, on a sauté dans le bus, hein, on a traversé la France à 6 et puis on a passé 3 jours sur place. 3 jours, c'est le temps qu'il nous a fallu pour plier l'affaire et comprendre ce que c'était.
Expédition zététique. Et alors, voilà. De quoi s'agissait-il ?
Alors, je ne vous le dirai pas. Parce que c'est une affaire qui est absolument incroyable, mais ceux qui veulent l'histoire et les photos, parce qu'on a réussi à la capturer, je crois qu'on est un des seuls groupes au monde à avoir réussi à capturer un fantôme en vrai, et toutes les photos et le dossier sont en ligne, c'est dans une newsletter de d'août 2008, il me semble, hein, qui est sur notre site web, donc allez-y, il y a la Dame Blanche en couverture.
Le premier volet
en tout cas,
a été paru.
Il y avait un canular dans l'histoire.
Il y avait c'est une histoire incroyable.
Il y avait un canular.
Un premier volet est paru, il y aura un deuxième qui paraîtra bientôt.
Voilà, il faut aller sur zététique.fr.
Hein. Zététique.fr, vous regardez dans les newsletters, dans l'historique des newsletters, il y en a une qui parle de la Dame Blanche, août 2008, il me semble, et c'est une histoire assez. C'est une histoire assez incroyable.
C'est une vraie saga, enfin, c'est un récit d'aventure.
Voilà, mais du coup, ça pose vraiment des questions, parce qu'on s'est demandé sur place, et du coup, nous, il nous a fallu 3 jours pour plier l'enquête, hein, et on s'est dit, mais si un journaliste était passé et qu'il avait à faire un sujet sur... Il aurait interviewé tous les gens du village, et il serait reparti avec un sujet qu'on aurait retrouvé dans les 30 plus grands mystères de l'histoire sur TF1 ou quelque chose comme ça, comme une histoire absolument incroyable. Nous, il nous a fallu 3 jours pour plier l'affaire.
Et pour voir qu'il n'y avait pas de mystère.
Et pour voir que le mystère était vraiment navrant, quoi.
Patrice demande ceci par courriel. La zététique fait-elle encore appel à des illusionnistes pour découvrir certains trucs mis en jeu par certains petits malins ?
Oui, c'est de moins en moins le cas, en fait, parce qu'il y a de moins en moins d'illusionnistes qui font croire à des choses un peu bizarres. Mais ça a été beaucoup le cas, par exemple, lors de Yuri Geller qui tordait des petites cuillères par la force de la pensée ou des clés ou ce genre de choses. Maintenant, les dérapages, ils sont plus souvent du côté des mentalistes dont certains laissent à penser que le mentalisme, c'est une spécialité de la magie. Hein, faut pas se leurrer. Hein, c'est pas des super psychologues qui sont capables de lire grâce à la PNL ou des choses compliquées dans les micro-signes de votre visage ce que vous pensez ou si vous préférez le thé ou le café. Non, c'est juste il y a des trucs de magiciens et ils laissent à penser qu'ils ont des pouvoirs. Des pouvoirs de perception qui sont... C'est pas du tout le cas. Hein,
Ce message de Florence qui nous écoute à Villars-sur-Bienne. Que pensez-vous des rebouteux ou des barreurs de feu qui sont censés atténuer les effets d'une brûlure, éviter sous-infection ou des éventuelles cicatrices ? Mon conjoint, dit Florence, a été brûlé au deuxième degré et l'hôpital où il a été admis, suite à notre accord, a fait venir une dame au sein de l'hôpital qui barrait le feu. Résultat spectaculaire.
Ça, c'est un cas typique, en fait, sur lequel Nicolas Vivant a essayé de faire une expérience à l'Observatoire Zététique. Là, on a essayé de faire un dossier pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en était, ces histoires de barreurs de feu. Et là, donc, comme d'habitude, ce qu'on essaye de faire, c'est de comparer les allégations des gens qui pensent avoir un pouvoir et le naturel, en fait. Donc, on a mis face à face. On est allé voir un dermatologue, on lui a demandé, alors, comment ça se passe ? Alors, on a pris leurs choses sur le coup, hein, c'est que quand on a une brûlure... D'abord, plus elle est superficielle et plus elle fait mal, souvent, hein, les brûlures qui sont vraiment graves, en fait, souvent on ne sent plus rien parce que le nerf est mort, quand la chair est à vif. Et du coup, les petites brûlures qui sont très douloureuses, en général, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde le fait d'ailleurs, hein, quand on se brûle, qu'est-ce qu'on fait ? On met le doigt sous l'eau. Hein, et en fait, donc, les dermatologues nous ont dit, au bout de 15 minutes, c'est la règle des 3-15, hein, vous mettez le doigt sous l'eau avec un angle de 15 degrés, sous de l'eau à 15 degrés Celsius, pendant une quinzaine de minutes, et puis au bout de ça, ce qui va se passer, c'est que dans la demi-heure, vous avez plus mal, et dans le... dans les deux semaines, vous avez une guérison sans cicatrice. Et quand on a comparé ça aux allégations des leveurs de feu, en fait, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire d'expérience sur le sujet, parce que leur allégation, c'est de dire « je vous lève le feu en 30 minutes, et vous avez une guérison dans la semaine sans cicatrice ». Et donc, c'est la même chose qu'une guérison spontanée, en fait. Donc, à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font souvent ? C'est qu'ils vous font les premiers soins, c'est-à-dire ils désinfectent la plaie, ils mettent un tulle gras le cas éventuel ou ce genre de choses. Et puis après, si on peut dire une petite pensée ou faire un bisou magique ou une sorte de chose comme ça, un petit rituel qui fait en sorte que la personne aille mieux ou cesse de stigmatiser sa douleur pour lui alléger sa peine, dans les hôpitaux, ils n'hésitent pas à le faire. Alors des fois, on vous donne un granule, des fois, on vous récite une prière, des fois, ce genre de choses.
Fabrice Néré, pour terminer ce message de Chloé, elle se demande si la zététique peut être considérée comme le purgatoire entre l'avéré et le supposé, le chaînon manquant entre les cartésiens et les farfelus.
J'ai un peu du mal avec votre question.
Vous avez une minute pour répondre. Vous avez le temps.
L'important, en fait, derrière, c'est... de nos jours, en fait, il y a folie. Quand on parle d'explicable, en fait, il y a folie d'explication, que ce soit sur les peurs modernes ou sur des choses comme ça. Il y a des tas de gens qui savent et qui vous disent quelle est la vérité. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, quand on peut être sceptique, on vous dit même pour le climat, des gens se disent sceptiques avec le même mot. Et en fait, il faut voir, il y a un peu deux positions cohérentes. Il y a le sceptique radical qui dit « non, moi, je crois rien ». Mais ni dans un sens, ni dans l'autre. D'ailleurs, est-ce que vous existez ? J'ai pas la preuve. C'est cohérent, c'est pas très opératoire. Il y a le scepticisme raisonné, comme nous, effectivement, on veut un peu... est-ce que c'est vraisemblable ou pas pour le curseur ?
Basé sur des faits, du coup.
Et il y a le scepticisme à géométrie variable, qui est de dire « ah non, si ça vient de quelqu'un qui a un rapport avec le gouvernement, j'y crois pas. Par contre, cette page web, quand même, elle m'a l'air bien et convaincante ». Donc évidemment, il faut voir que quand on est sceptique, on l'est toujours ou pas, il faut être un peu cohérent par rapport à ça, quoi.
Être raisonnable, ça ne veut pas dire être entre deux extrémités. Être raisonnable, ça veut dire faire preuve de raison.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. C'est là-dessus que nous terminerons ce dossier consacré à la zététique. Donc votre site www.zététique.fr et puis ce livre aussi d'Henri Brock, Gourou, Savant et Sorcier, qui est toujours disponible, je crois, préfacé par Georges Charpak et qui a été publié aux éditions Odile Jacob. Merci à Anne-Laure Cochet et Guillaume Lacroux. Dans un instant, Daniel Mermet. On se retrouve demain vendredi avec nos grosses têtes au carré. Vous écoutez France Inter, il est 15h.